La communauté énergétique, Naïda, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Hier, j'étais dans le groupe de l'énergie renouvelable, mais je vais peut-être me présenter à nouveau pour les collègues. Je viens du secrétariat de la communauté énergétique, qui est une organisation internationale basée à Vienne. Et notre tâche consiste à appuyer nos parties contractantes pour les procédés d'accession à l'UE pour la mise en œuvre des faibles renouvelables. Non, nous couvrons 6 pays, plus le Moldova, l'Ukraine et la Géorgie, et nous adoptons des directives de l'UE pour les transformer dans la législation de nos interlocuteurs. Alors notamment, pour ma part, je dirige l'équipe spéciale et le secrétariat des experts de l'énergie. Nous transposons actuellement 2 directives, RED 2, qui a été adopté en décembre 2021, mais dans un délai d'une année, très brièvement, et fin 2022, cela a expiré, et les parties contractantes ont déjà adopté de nouvelles lois se concentrant sur les articles de cette directive. Avant cela, il y a eu la première directive sur les renouvelables, et je vais vous parler des nouvelles dispositions par rapport à la précédente. Tout d'abord, nous sommes passés d'un schéma d'appui fondé sur les règles administratives à un schéma fondé sur le marché. Deuxième aspect important, il s'agit de donner la possibilité aux consommateurs de participer à la transition énergétique en introduisant des articles qui se concentrent sur l'autoconsommation et les communautés énergétiques. Et cela, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et troisième axe, pérennité et gaz à émissions à effet de serre en ayant des critères pour les biocombustibles, les bioliquides et les combustibles de biomasse. Mais nous en avons discuté en détail hier, donc je ne vais pas me répéter. Ce que nous avons fait aussi à la communauté de l'énergie, c'est que nous avons adopté les cibles de 2030 pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et les cibles ont été adoptées au niveau national pour chacun des pays. Et pour les énergies renouvelables, nous avons des cibles de 31%. C'est un but ambitieux par rapport à ce que l'Union européenne a adopté, mais comme je l'ai dit hier, nous avons nos cibles de 2020 et seuls trois, le Moldova, le Monténégro et la Roumanie ont réussi à les atteindre. Pour veiller à la qualité de nos actes, de nos actions pour réaliser les cibles de 2030, nous veillons à ce que vous, États membres, agissez. Un certain nombre d'entre eux ont été soumis au secrétariat et nous espérons qu'elles seront adoptées à la fin de l'année. Quelques mots à propos de l'autoconsommation et de la communauté énergétique. Je vous ai parlé des nouveaux articles de la directive qui aident à cela. Et notamment, je vous ai donné ici la liste des obligations, c'est-à-dire maintien du droit des consommateurs, rémunération pour l'alimentation électrique au réseau. Je pense que vous savez tout ce que signifie la facturation nette, etc. Ce qui nous importait, c'était que même si ces obligations sont clairement énumérées, elles ne donnent pas de détails quant à leur application. C'est pourquoi le secrétariat a adopté 2 directives, l'une qui se concentre sur les autoconsommations d'ailleurs, ces directives politiques ont été adoptées avant la directive de l'UE et nous l'avons mise à jour. Les directives politiques comportent plusieurs chapitres qui se concentrent sur le cadre politique, comme je vous l'ai dit, les cibles de 2030 et comment l'autoconsommation peut y a contribuer. D'une façon générale, notre recommandation est d'avoir également des cibles distinctes dans l'autoconsommation et la communauté de l'énergie. Donc, nous avons le cadre de réglementation et juridique, les exigences techniques, l'accès au marché, l'accès au réseau et ce qui est très important aussi, les charges, les taxes et les impôts. Deuxième ensemble de directives politiques que nous avons adoptées cette année se concentre sur la communauté énergie renouvelable ou bien la communauté énergie citoyenne. Nous avons essayé dans nos directives politiques d'établir des comparaisons, mais l'on comprend bien les différences existantes entre ces deux conceptions. Mais d'une façon générale, ces conceptions sont sous-développées. Et nous n'avons pas de bons exemples dans les parties contractantes ni à l'UE. Mais c'est d'une importance critique pour que les pays aient une idée de la manière dont on peut appliquer cela dans la pratique. Ici, vous voyez le nombre d'installations d'autoconsommation. Ça, c'est pour le premier trimestre 2023. Ça a augmenté dans nos pays. Alors, pourquoi est-ce que ce nombre est assez élevé? Eh bien, c'est parce que dans la plupart des pays, l'autoconsommation a été introduite avec le compteur net, c'est-à-dire le kilowatt-heure en tant que tel, et il n'y a pas eu d'impact sur le prix du marché, et maintenant ça change dans beaucoup des parties contractantes. Ici, je vous ai fait une petite comparaison concernant les limites de capacité d'installation. En général, il y a des différences entre les foyers et les entités légales, juridiques, et là, vous voyez de grandes différences selon les parties contractantes s'agissant des limites d'installation. Donc pour l'Albanie, 500 kW, pour la Géorgie aussi, alors que en Macédoine du Nord, c'est 6 kW pour les foyers et 40 kW pour l'industrie. Nous avons des schémas différents, donc compteur net et facturation nette, et beaucoup de pays qui ont opté pour la facturation nette à la fin de l'an dernier. Et à partir de janvier, ils ont introduit la facturation nette, mais la question demeure de savoir qu'est-ce qui doit se passer pour les consommateurs qui sont au compteur. Un délai a été imposé, mais en général, il faudrait le faire. Donc en Moldova, il faut une analyse approfondie, notamment pour les données concernant les installations dans les foyers. Alors ici, je vous ai préparé deux exemples de bonnes pratiques. Ce qu'on a pu constater dans toutes les parties contractantes, c'est que il y a des informations insuffisantes et la connaissance parmi les citoyens est insuffisante sur la manière d'utiliser tout cela. On a pu constater pour le Monténégro, par exemple, que les services publics de l'État sont importants. L'installation de panneaux solaires sur 3 000 foyers et les citoyens ont un prêt pour installer des panneaux solaires sur leur toit et ils ont un remboursement du prêt sur leur facture d'électricité. Alors en Serbie, nous avons un calculateur solaire en ligne. Et donc, vous pouvez avoir des informations tout à fait simples dans votre facture et effectuer des calculs pour voir comment rembourser ces frais d'installation et ensuite avoir des informations pour savoir où acheter l'équipement, etc. Vous recevrez l'exposé plus tard et je pourrai répondre à vos questions après.